Retour, enfin, des chirurgiens dentistes. Et là aussi, leur monde, leur cabinet, leur façon d'opérer doit changer radicalement dans un espace de temps très court. Nous allons parler à Jérémy Béliveau-Lefebvre, chirurgien dentiste. Il est le propriétaire de la clinique 2460 à Sherbrooke. Docteur Béliveau-Lefebvre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Hood.
Comment accueillez-vous cette nouvelle du retour de vos collègues, de vos consoeurs, de vos confrères, des chirurgiens dentistes?
On l'accueille de manière, je dirais, partagée.
Ouh!
En effet, c'est sûr que financièrement, on est comme tous les commerces. On n'a pas travaillé pendant 8 à 10 semaines. On attend impatiemment de retravailler. Maintenant, on s'est fait annoncer, pas par notre ordre, mais par le gouvernement, qu'on pouvait recommencer. On est comme « OK », sauf qu'on n'a pas toutes les recommandations en rapport avec ce virus-là. En effet, c'est un virus qui est
attendez, là,
nouveau.
On vous a dit « Vous rouvrez », mais on ne vous a pas envoyé le manuel d'opération.
On ne le savait pas au moment où ils l'ont annoncé, en effet. Et donc, ce n'est que par la suite, le 16 mai, qu'ils nous ont... Le 16 mai, c'est avant que le gouvernement l'annonce, là, mais le 16 mai, ils nous ont envoyé un document qui était préliminaire, donc c'était pas officiel. Fait qu'on était comme, OK, tu sais, c'est pas officiel, on va attendre l'officiel. L'officiel, on l'a reçu après que le gouvernement l'ait annoncé. Mais la chose qui est, c'est qu'ils ont fait beaucoup de changements entre le préliminaire et l'intérimaire. Puis nous, ça occasionne beaucoup de changements, plus que ce qu'on pensait. Fait que là, ça fait qu'en ce moment, je dirais que la plupart des dentistes au Québec, on court à droite puis à gauche pour se trouver l'équipement qu'on a besoin pour être capable de fonctionner.
Ouais.
Ce qui fait que, le 1er juin, oui, c'est la date officielle qu'on peut commencer, mais faut pas s'attendre à ce que votre dentiste il puisse nécessairement ouvrir... Cette journée-là, ça, c'est quelque chose qui est réaliste.
Dites-moi, quel est votre plus grand défi? Parce que, évidemment, vous êtes ce qu'on appelle, et excusez-moi de le dire, c'est pas réducteur, un commerce de proximité avec le patient, avec le client. Mais en plus, c'est que tous les jours, à chaque heure, vous manipulez ce que je dirais des rebuts médicaux qui évidemment, doivent faire sans aucun doute, l'objet d'une attention toute particulière en période de pandémie.
Vous avez raison. Je dirais que on a des petits défis. Je dirais les EPI, c'est des petits défis, là, les équipements de protection individuelle. Là, vous les connaissez, là, les blouses, les visières, les masques, les lunettes, c'est des choses. Je dirais que le plus gros défi, ça va être dans la ventilation. Je dirais que c'est ça qui nécessite le plus grand investissement de notre part. Il y a des cliniques qui sont plus vieilles, il y en a qui sont plus récentes, il y en a qui vont faire des plus gros changements, d'autres de plus petits changements. Mais comme je dis dans le document qu'ils nous ont relâché, ils ont passé du premier document de faire 2 changements d'air de toute la clinique à l'heure à 6 changements d'air à l'heure, dont 2 qui viennent de l'extérieur. Fait que ça fait quoi? Ça fait qu'en une heure, à cause des aérosols, il faut que l'air dans toute la clinique ait circulé 6 fois.
Et
c'est énormément de stock. Fait que ça, c'est certaines cliniques qui étaient déjà citées comme ça dans certaines salles, mais là, ils nous demandent tout notre volume d'air de clinique. Fait que nous autres, on est comme OK, échangeur d'air au bout, ventilateur au bout, mais. J'ai des collègues qui ont dépensé au-dessus de 10 000 $ là, pour équiper leur clinique, puis les autres qui ont des gros volumes de clinique, fait que ils n'ont pas encore assez investi avec les nouveaux les nouvelles recommandations. C'est un défi. C'est un défi de taille, disons.
Est-ce qu'il y a des opérations que vous considérez qui demandent plus de soins dans la préparation? Ce que je veux dire, entre un nettoyage dedans, entre la réparation d'une carie ou un travail plus en profondeur comme un traitement de canal. Est-ce que vous avez des situations où c'est plus complexe que d'autres?
Je dirais que c'est certain, vous avez raison à ce niveau-là. Mais en général, c'est que vu que c'est un virus qui est nouveau, ça tourne tout autour de ça. On n'a pas assez de données épidémiologiques derrière ça. Ça fait que quand on a des procédures, moindrement qu'on a la chance d'avoir une émanation de virus dans l'air par aérosol, c'est difficile pour nous de le quantifier parce qu'on n'a pas de mesure à ce niveau-là. Fait que le VIH, on a au-dessus de 25 ans de recul. Fait qu'il y a des choses qu'on connaît du VIH qui n'est pas dangereux. Mais pour
ça, vous faites bien de le mentionner parce que là, vous avez l'expérience. VIH, un virus pour lequel on n'a toujours pas de vaccin, qui a fait plus de 40 millions de morts dans son histoire terrible de 40 ans. Vous aviez été aux premières lignes dans l'adaptation pour que ne se transmette pas le virus du VIH dans un cabinet de dentiste.
Exactement. Mais nous, les dentistes, justement, comme vous avez dit, vous avez parlé des traitements, si on revient à ça, c'est que la plupart des traitements, c'est vrai, la plupart des traitements qu'on fait, ils font des aérosols. On suspecte que la dose virale dans ces aérosols-là est très minime, puis que c'est anodin. Sauf que quand on regarde les médecins, il y a des médecins en Italie qui, après 2 heures d'intubation des patients avec des masques chirurgicaux normaux, ils vont contacter le virus. Fait que le virus, il est virulent. Il y en a un problème. Puis le problème qu'ils ont détecté aussi, c'est que avec des études, il y a 30 à 70% des patients qui ont COVID positif, mais qui sont asymptomatiques.
Ouais.
Donc, qui ne présentent pas de symptômes, pas de température, pas de fièvre, pas rien. Tout est beau. Viens t'asseoir dans ma chaise, je te traite, je fais des aérosols. Puis, vous voyez, des aérosols dans la pièce, je vois un prochain patient tout de suite après, puis un autre, puis un autre qui va respirer ça. Fait que, oui, là, c'est des défis.
Mais vous faites bien de souligner, parce que le grand défi dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera la possibilité de pouvoir identifier des personnes asymptomatiques. Mais est-ce qu'on pourrait terminer, Dr Béliveau Lefebvre, en recommandant aux patients de ne pas se présenter chez vous dans un cabinet de dentiste? Moi, par exemple, si j'ai le moindre rhume ou si j'ai une grippe durant l'hiver, j'annule mon rendez-vous autant que possible. Évidemment, ce n'est pas une urgence, là, mais il va falloir qu'il y ait une collaboration de vos patients également.
Vous avez raison à ce niveau-là. Mais c'est pas facile pour les gens de détecter s'ils sont malades, surtout pas pour ce nouveau virus-là, parce que il y a tellement de symptômes différents. Il y a des symptômes d'irritabilité, il y a des symptômes d'inflammation des orteils, de douleurs aux genoux. On peut pas penser qu'on l'a quand on a ce genre de symptômes-là. Mm-hmm. Mais pourtant, c'est des symptômes qui se déclarent avec le COVID. Fait que nous, faut qu'on traite nos patients comme si tout le monde était asymptomatique. Puis de cette façon-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir protéger le public. C'est comme
alors,
ça qu'on va pouvoir,
on vous souhaite un bon retour et puis je considère que c'est dans les services on ne peut plus essentiels. Bonne chance.
Oui.
Bonne chance.
Ben, merci.
Bonne chance, docteur Jérémy Béliveau Lefebvre. Il est propriétaire de la clinique 2460 à Sherbrooke.